J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous me voyez, j'ai la connerie. Donc à chaque fois que vous me voyez, en fait, genre, c'est pas moi qui ai le neurone de mon follicule et que, genre, je suis un peu en mode, en mode gobelin, tu vois. Voilà.
Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas l'impression que, enfin, nous on a l'impression que c'est ta personnalité en fait. Enfin, on n'a pas d'autres facettes de toi.
Ça c'est faux parce que tu m'as déjà récupéré la petite cuillère quand ça allait vraiment pas bien, donc tu sais qu'il y a d'autres personnalités.
Ouais, c'est vrai que j'ai failli dire, oh, au bout d'un moment, si c'est une constante à chaque épisode, c'est peut-être que quelque part.
Ah oui, non mais j'ai complètement en mode
Oui,
gobelin, genre.
mais c'est
Vraiment.
juste parce que
Ouais.
c'était rigolo à dire, mais.
Tu te mets peut-être en mode spécial épisode?
Ah, t'es en représentation.
En représentation de ma Vembo persona.
C'est beau, Jumbo.
Pour vous ce
Ouais.
soir, en exclusivité.
Avec ma tatoueuse, on a dit genre on n'a pas la tête, on n'a pas l'argent, on n'a pas le talent, du coup faut bien qu'on ait le physique.
C'est tout à fait faux.
C'est Jodie qui m'a dit ça alors qu'elle a énormément de talent et tu peux en témoigner, Charlie, c'est Jodie qui m'a dit ça.
Je suis si choqué.
Narration pour les personnes qui n'ont pas l'image.
Pour
Louis est
les
très beau.
personnes. Bah,
Ah oui, mais
Louis
c'est
est
ça,
toujours
genre.
très
C'est
beau. La
justement.
personne dont on parle est vraiment une tatoueuse de talent. Genre.
Je vais dire un
Comment?
truc qui va peut-être rendre Louis self-conscious, enfin encore plus que ce que je viens de dire.
Ouais.
Mais en faisant le montage de l'épisode 17, j'ai eu l'impression que Louis avait un nouveau rire qui était vraiment à base de hihihi. Et ah, il fallait faire la balance, quoi. Je me rends compte que je viens de faire la balance, mais d'une autre façon.
Littéralement celui-ci. Littéralement ce rire-là. Et
Littéralement.
non,
Ce
c'est vrai que
soir.
je l'avais pas entendu sur les épisodes d'avant, et c'est vrai que. Mais pas que sur l'épisode, mais genre depuis quelques mois, Louis a développé un nouveau rire, et franchement, c'est hyper mime, c'est très communicatif, donc. Bravo le rire.
Bref. C'est ça de traîner avec des drag queens. Il faut au bout d'un
On a une
moment,
mauvaise
tu.
influence les uns les unes sur les autres.
Oui.
Ah, je crois que ce soir, Jenna commence déjà à tacler à la gorge, ça va pas bien se passer.
Surtout
Je
que
sais
c'est
pas,
Jenna
j'ai
qui nous
l'impression
dit.
que je suis. Enfin, moi, quand je suis avec un public qui apprécie ce genre de choses, je peux être féroce.
Ok.
Quel est le sous-entendu?
Oui,
Déjà que tout à
celui-ci,
l'heure, tu
Louis.
as rendu Louis horny sur notre conversation, alors si tu commences à le faire à l'antenne, on va avoir un vrai problème.
Ça dénonce, mais genre, c'est là Saint-Louis ou quoi? Genre, qu'est-ce qui se passe?
C'est pas une vérité.
Non, mais le step on
Ah.
me mommy de tout à l'heure, finalement, voilà, il y
Alors,
a toujours cette énergie.
c'est pas moi qui l'ai dit. Oh là là. Bref, on va peut-être faire un tour, genre, des nouvelles qu'on fasse, un pré-show propre.
Et puis de qui parle depuis tout à l'heure aussi, parce
Oui,
que.
c'est ça, parce que.
C'est plutôt une bonne idée. Bah, bonjour, bienvenue dans l'épisode 18 de Un podcast trans. Nous sommes quatre aujourd'hui autour de cette gigantesque table. Avec moi, il y a Mika
Oui, bonjour tout le monde.
et Louis.
Bonsoir.
Qu'est-ce que c'est?
Waouh! Et Charlie.
Bonjour, bonsoir tout le monde.
Voilà.
Pardon, faut que je fasse une voix normale en fait, parce que genre, mon cerveau vient de capter que c'est pour que les gens sachent qui parle. Donc bonsoir, c'est Louis, c'est ma voix normale.
Oui, pas mal. Et moi, voilà, on est quatre. Ah. Bon, comment ça va depuis la dernière fois?
L'introduction du dernier épisode a si mal vieilli. Vraiment, Mika et moi qui nous regardons en hochant la tête, parce que dans le dernier épisode, on est les deux seuls à dire hey, nous on n'est pas encore en burn-out, c'est vraiment super. Entre-temps, les deux ont eu un
Vous
arrêt de
êtes
travail,
autodétruits.
c'est vraiment super.
Ah.
Littéralement.
Littéralement, j'ai explosé littéralement 2 jours après l'enregistrement du podcast.
Yeah.
Charlie, 2 semaines après.
Exactement.
C'est les prophéties autoréalisatrices. Je
C'est
suis
vraiment.
désolée si c'est contagieux.
Non, mais c'est comme casser des œufs trans, vous avez cassé des œufs de burn-out.
Mais bien voilà, il faut attendre que ça sorte tout seul.
Ouais, non, mais après Charlie, pour être honnête, genre ça fait un moment qu'on parie sur toi sur le ah là, le bord du burn-out, attention, ça fait un moment que t'es sur la ligne et que genre t'es en mode eh, je tiens encore. Genre vraiment le dernier épisode, c'était juste la petite brise qui a fait que oh non.
Là, c'est pas drôle en tout cas.
Non, pardon.
Pardon.
C'est vachement bien qu'on arrive à en rire. Enfin, moi, c'est un truc du fond de ma dépression. J'ai vraiment senti que tant que j'arrivais à trouver des trucs pour en rire avec les autres, j'étais pas complètement au fond. Et il y avait beaucoup d'espoir là-dedans, pour moi. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, parce que, enfin, mais il y a un peu ma spécialité, en tout cas avec mes proches et mes partenaires, c'est d'arriver à faire rire les gens qui vont très mal, ou qui ont des deuils, etc., en leur disant des trucs complètement inappropriés, ou des trucs qui sont trop tôt en fait. Et vraiment, mon surnom, c'est Toussoun. L'idée que, enfin voilà, qu'on plaisante d'un deuil, par exemple, enfin c'est et au fond de ma dépression, c'est-à-dire il y a quelques mois, ce que j'ai expliqué à mon psychologue, à ma psychiatre, etc., c'était voilà, j'ai ça, j'ai super pouvoir, et sur ma pierre tombale, je voudrais qu'on écrive entre guillemets, c'est important, too soon. Et en fait, ça faisait rire que moi, quoi. Ils m'ont rien. Non, mais non, ça va pas. Enfin, on va essayer de pas
Comme
parler de
ça,
votre pierre
hilarant.
tombale. Mais moi, enfin, j'y tiens.
C'est terrible.
Mais c'est, en fait, je te rejoins sur le côté quand il y a, ouais, quand il y a des bursts comme ça d'énergie un peu positive, de rire. Effectivement, c'est en ce moment c'est le truc auquel je m'accroche parce que c'est j'ai quand même plutôt eu l'habitude d'avoir une baseline de morale qui était assez haute et du coup le fait que là ce soit très très fluctuant et que ça tombe parfois vraiment très bas très vite j'ai pas l'habitude donc c'est voilà et du coup effectivement je me raccroche à ces trucs en me disant ah mais aujourd'hui j'ai pas passé une si mauvaise journée parce que à tel moment j'ai vu des gens, on a rigolé, et j'étais capable de dire des bêtises ou de sortir un vieux jeu de mots tout foireux. Et du coup, ça va, je suis pas complètement, voilà, je suis pas complètement foutu encore.
Non, mais je relate.
Et en dehors de ces questions de santé mentale, des nouveautés, des...
Vas-y, Charlie. Ah non, pardon, il reste une minute.
Ah
J'ai tellement l'habitude des gens qui font le V-sign qu'en fait, genre, c'était pas du tout un signe pour prendre la parole, mais pour dire il reste 2 minutes pour parler. Moi, j'ai fait mon premier match de roller derby en tant que joueur et c'était trop chouette. On a perdu. Mais c'était cool quand même. J'ai pas fait de faute. Enfin, j'ai pas fait de faute. J'ai pas eu de faute sifflée parce qu'il y a une photo où on me voit faire une super faute, genre vraiment pile au moment où genre, on me voit faire un forearm pour celles qui savent. Sur la jameuse adverse, donc voilà. Mais sinon, c'était cool, c'était intense, mais
C'est en gros, t'as le
c'est.
droit de toucher avec le haut des bras, mais pas le bas des bras.
Ouais, t'as, en gros, t'as pas le droit d'impacter avec tes avant-bras et
Ok.
en dessous de tes genoux et ta tête, globalement.
D'accord. Tout ce que je sais du roller derby vient du film Whip It, donc j'ai une connaissance très limitée.
Mais oui, c'est vrai que pour prendre la suite de Louis et faire la transition avec l'épisode précédent et continuer à parler de sport, moi j'ai eu ma compétition de natation ce week-end et j'ai battu mes deux records sur lesquels j'étais engagé et j'ai gagné 2 médailles et, parce que j'étais la seule personne inscrite en catégorie non binaire. Mais fun fact, même si j'avais pas été en catégorie non binaire, j'aurais gagné dans ma catégorie d'âge quand même.
C'est pour ça que tu étais tout seul sur ce podium. Les photos, elles sont magnifiques, hein. C'est ouf.
Vous enverrez les photos de Derby aussi. C'est vrai que je vous ai pas montré.
Moi,
Parce
c'est
que.
vraiment représentatif, hein, mais il n'y a rien de neuf depuis la dernière fois. C'est ce qui montre bien à quel point, en fait, je suis passée de beaucoup trop de choses à rien de significatif. Si, j'ai cassé un mur
J'ai
dans
cru que
la
toi aussi
maison
t'allais
de.
dire que t'avais cassé un œuf, genre en mode
Non.
ça toi aussi t'as rendu quelqu'un
Non.
transe.
Non, non. J'ai cassé un mur dans la maison de ma chérie. Et voilà. Et si, quand même, il y a une grosse, grosse.
C'était volontairement, elle était consentante, tout
Elle
ça.
était consentante et en demande de casser le mur pour faire des
Waouh.
travaux et agrandir ça une pièce.
La suite des aventures de Step on Me, Mommy.
Je me permets juste de déborder 2 secondes, mais si, quand même, il y a un truc, ça me concerne pas directement, mais beaucoup quand même. Il y a mon chéri qui a fait son coming out en tant qu'homme trans. Et voilà, il est élu politique de la ville de Marseille. Et donc voilà, je suis super, super fière de lui parce que c'est quand même assez significatif comme geste et ça envoie des signaux aussi à des personnes qui pourraient, je pense, être dans le placard de ce côté-là. Donc voilà,
Ouais.
je suis trop fière de lui et je l'aime très, très fort.
C'est
Bravo
trop bien.
Marseille.
Bravo à lui.
C'est ouf cette jet set trans qui sort entre elles. Tu vois, il n'y avait que les célébrités trans qui. Et ben.
Sans transition.
Ouais, merci. Parce que sinon, ça allait être boiteux. Je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai trouvé fun, et c'est pour ça. Oh, là là, je rame. Des personnages trans dans le canon Nintendo. Et on a, enfin, nous nous plaignons régulièrement du manque de représentation trans ou de la façon dont c'est fait, quand c'est fait. Et puis on peut continuer à célébrer la déesse céleste et sa créatrice Madeline. Mais voilà, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et je voudrais raconter comme ça, et c'est vraiment passé vite dessus, hein, on va pas, j'ai pas des masses de détails, parce qu'il n'y en a pas des masses, mais raconter un peu certains trucs qu'on a tous un jour vus ou confondus, et puis des trucs qui sont évidents et dont on s'est pas rendu compte. Et le premier que je voudrais souligner, c'est Zelda. Parce que depuis qu'on est tout petit, petite, on joue avec ce personnage vert qui est a priori un garçon, et que tout le monde appelle Zelda avec un prénom de fille, ça ne choque personne. Il n'y a que vraiment les connaisseurs, connaisseuses qui savent que Zelda, c'est la princesse. Et que le petit mignon avec le juste au corps vert, il s'appelle Link.
C'est Peter Pan,
Ah
c'est
mais oui, c'est
Robin
Peter Pan, c'est Robin
Desbois.
des Bois, complètement. Et c'est
L'école
pas
en
un
fer.
hasard. C'est pas un hasard que Link soit une icône transmasque. Il y a tellement de très très belles images que vous ne devriez pas ouvrir au travail. De Link en tant qu'icône transmasque. Oui, Louis? Tu veux partager avec la classe?
Je hurle parce que littéralement l'autre fois je suis tombée sur un compte genre de ces forward Twitter où c'était genre Link avec genre Sidon, avec Ganon, avec tout le monde. Voilà.
Poursuivez.
Donc voilà, ça c'est le premier. Donc c'est un petit peu pour souligner que si on veut, Link est trans, mais globalement Link est plutôt un garçon. Et Zelda, c'est la jolie princesse qui n'est pas Peach. Et l'autre, comment elle s'appelle d'ailleurs? Il y a deux
Daisy.
princesses chez Mario.
Daisy.
Daisy. J'ai vu des très jolies images qui montraient que quand tu mets Peach et Daisy côte à côte, ça fait un drapeau lesbien. Et c'est probablement un hasard, faut reconnaître. Pendant mes recherches, j'ai vu énormément d'images de Luigi en tant que crossdresser. Il semble que ce ne soit jamais canon. C'est super intéressant que Luigi soit celui qui a la maison hantée, celui qui vit dans l'ombre de son frère et qui du coup cherche à se démarquer. Et j'aime beaucoup qu'on lui ait collé en plus le headcanon de monter sur scène et de mettre des habits de princesse et tout. Toujours avec la moustache. Mais ça, c'est pas canon. Le personnage de Nintendo que j'ai trouvé qui est le plus évidemment trans, et j'ai des scrupules à l'âme et genrée, de manière assez logique. C'est un personnage qu'on voit dès les premières, dès les premiers jeux de Nintendo. J'ai pas de date exacte, je sais pas si c'est un jeu de console ou un jeu des petites consoles portables d'avant les consoles de Nintendo. C'est un personnage qu'on connaît selon les endroits sous le nom de Birdo ou Birdetta. Et dans les années 80, on n'avait pas forcément le vocabulaire, les outils pour distinguer une personne trans d'une personne qui cross-dress, d'un travesti. Mais Birdo est décrit dans les notices comme un garçon qui voudrait être une fille, ou qui voudrait être genré au féminin, ou qui voudrait être appelé Birdetta. Et donc, ça pointe plutôt vers une meuf trans, avec notre vocabulaire actuel. Dans la mesure où c'est un personnage qui existe toujours dans le canon Nintendo, c'est-à-dire qu'on le voit encore de temps en temps dans des jeux de combat, dans des jeux de cartes, etc., on peut dire maintenant que ce personnage est trans. La raison pour laquelle on peut dire que Birdetta est trans aussi, il y a des points positifs et des points négatifs. Le point le plus négatif que je vois, c'est que quand on connaît Birdetta, c'est une antagoniste. C'est toujours une adversaire de Mario. Et en tout cas au début. Et n'hésitez pas à rajouter des détails si vous en avez, parce qu'il y a des jeux auxquels j'ai joué, parce que j'étais déjà vivante, mais il y a des jeux auxquels j'ai pas joué. Le point que moi je trouve négatif, c'est que Birdetta est une antagoniste, et spécifiquement, il est décrit que elle est aigrie de pas pouvoir pondre des œufs, donc elle lance des œufs à Mario. Et ça pue un peu, parce que c'est exactement la logique du silence des agneaux, qui est une des raisons pour lesquelles j'ai mis autant de temps à accepter l'idée d'être trans. Donc ça, c'est un peu triste sur la vie de Birdetta, je vous le cache pas. Là où je trouve un petit peu plus positif, c'est que assez selon les pays, selon les traductions, Birdetta est parfois appelée sous un autre nom. Et l'autre nom, c'est Ostro. Et Ostro, parce qu'elle lance des œufs, mais clairement, il y a quelque part une meuf trans chez Nintendo qui s'est fait plaisir à laisser passer un truc dans le canon qui a été validé, parce que les six ne voient rien, enfin, ils ne sont pas au courant. Et voilà, j'ai trouvé mignon que Ostro soit toujours dans le canon Nintendo, soit maintenant décrit complètement au féminin, soit décrit comme une meuf trans. Dans les jeux récents, dans les jeux qui vont sortir là, Louis, si t'as les noms, parce que je les ai pas en tête.
Alors, j'ai pas les noms exacts, mais Birdetta, en fait, elle est dans les jeux Yoshi, notamment, et Yoshi's Island et tout ça, après, où elle est pas une antagoniste, mais elle est un personnage qui est, genre, je crois même qu'il y a des fois où genre, on la présente comme genre la copine de Yoshi ou un truc comme ça.
Okay.
Et elle est canoniquement trans. C'est d'ailleurs un des seuls le seul personnage qui est officiellement trans chez Nintendo, il me semble. Si on compte pas les rachats et tout ça, et aussi par rapport à ce que tu disais sur son autre nom qui peut être Ostro, faut savoir que pour les traductions, c'est souvent externalisé, donc en fait Nintendo passe par des boîtes de trad, donc à mon avis c'est aussi qu'il y a quelqu'un chez une boîte de trad qui était en mode une meuf trans, en mode j'ai
ok, donc c'est peut-être pas chez Nintendo, mais j'ai trouvé cool que dans la documentation récente, quand c'est précisé, elle est trans, quand c'est pas précisé, elle est au féminin. Et déjà ça, je me dis que peut-être il y a un tas de pixels qui en est satisfait. C'est littéralement un œuf qui est clos. Et je voudrais mentionner un dernier personnage, et ce sera la fin de mon sujet. Et ce dernier personnage, il a été mentionné par Louis, et c'est un personnage qui est là depuis très longtemps, auquel on pense pas, parce que il a toujours été genré correctement, c'est Yoshi. Yoshi est un dinosaure que tout le monde genre au masculin, que c'est le pote de Mario, qui a son île, qui a sa... Yoshi pond des œufs, Yoshi est un mec trans, et ça ne choque personne, Et c'est très bien comme ça. Voilà. J'ai trouvé des articles qui parlaient de ça. Je les mettrai en note d'épisode. Il y en a un sur Pink News, sur les rumeurs à propos de Luigi. Donc ça, à la limite, c'est l'endroit logique. Mais de manière plus intéressante, j'ai un article sur Le Monde qui parle de Yoshi et de la possibilité que ce soit un mec trans. Et ça, c'était une bonne surprise.
Je te mettrai les liens sur Beardo aussi que j'ai sur les représentations trans, parce que Beardo est vraiment considéré comme une des premières représentations trans qu'on a.
Oui, avec plaisir.
Mais avec ces mots-là.
Ouais.
Il y a ça, il y a aussi, il faut savoir que Luigi, c'est une grosse icône gay. Genre chez les joueurs, c'est vraiment, il y a plein de trucs de genre, en fait, il y a toute une théorie comme quoi, genre Daisy et Luigi, c'est un mariage d'arrangement et que elle, c'est une giga lesbienne et que lui, c'est un gros pédé. Et
pourquoi Luigi plutôt que Mario? Parce que c'est deux gros moustachus. Et...
Parce que est-ce que tu as vu les bandes annonces pour Super Mario Bros? Et est-ce que non, tu as vu la tension sexuelle entre Bowser et Luigi?
Mais même avant ça, en fait, il y a. En fait, ça vient des Luigi's Mansion principalement. Ouais. Enfin, à la base, c'était un truc sur le fait que Luigi, c'est un peu un petit froussard et qui est un peu plus maniéré que Mario et qui, tu vois. Enfin, il y a un peu des trucs là-dessus. C'est celui qui exprime un peu plus ses émotions que Mario. Et qui était caractérisé un peu comme ça, en fait, qui était comme le petit frère un peu froussard, un peu à protéger, un peu plus délicat, quoi. Et du coup, ça vient de là, en fait, où t'as toute une communauté de joueuses gays qui se sont réappropriées un peu l'icône de Luigi. Et aussi, un truc qu'il faut mentionner par rapport à Zelda, c'est que dans Ocarina of Time, si je dis pas de bêtises, Zelda se travestit pour fuir sa prison et devient Shake, que tu recroises après, en fait, et qui est genré au masculin. Mm-hmm. Et du coup, en gros, t'as, je sais plus si c'est, je crois que c'est Ocarina of Time et que du coup, peut-être Twilight Princess, je sais plus, mais un des deux, voire les deux. Et que du coup, en fait, il y a un truc où Zelda se travestit pour se faire passer pour un mec.
Très bien.
Moi, je voudrais revenir au personnage de Stro, en fait.
Ouais.
Ça m'est venu pendant que tu en parlais. Donc, elle est quand même souvent antagoniste, si j'ai bien compris.
Mm-hmm.
Donc, j'imagine qu'il faut la combattre pour passer à la suite. Est-ce qu'on peut donc dire que œstrogène?
Non, vraiment, Mika est arrivé avec sa tête la plus sérieuse du monde pour faire sa vanne.
J'avais peur de là où t'allais.
Vraiment, on est tous si concentrés pour essayer de suivre ton raisonnement, genre.
C'est parfait.
Acte en studio.
Et pour conclure, c'est pas du tout dans le canon Nintendo, c'est une citation de Mark Hamill, qui est un des acteurs qui a joué Luke Skywalker, et enfin le principal, vous le connaissez, à qui quelqu'un avait posé la question dans un panel public, est-ce que vous pensez que Luke est gay ou Luke est asexuel, peut-être Luke est un mec trans, etc. Et la réponse de Mark Hamill, c'était nous on a fait le personnage, il y a des trucs qui sont à l'écran, si ce personnage vous apporte de la joie en étant gay, en étant trans ou ace, alors ouais, ce personnage, il fonctionne, il est gay, il est trans, il n'y a pas de problème, allez-y, quoi. Et faute de mieux, quand on n'a pas de représentation, le headcanon, c'est vachement important, il faut le respecter, voilà.
Et il y a aussi un truc qui... Il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes queer européennes qui sont beaucoup mises sur les jeux, les JRPG, donc les RPG japonais, et les jeux Nintendo, parce qu'il y a une espèce de culture de l'androgynie masculine, notamment, enfin du coup de mecs hyper efféminés au Japon, c'est très très drôle d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment une dichotomie entre, je crois que c'est ça le mot que les adultes qui disent, dichotomie.
Tu sais pas, j'en connais pas.
Et que du coup, en fait, à la fois, ils sont très très conservateurs sur un milliard de trucs, mais en même temps, il y a vraiment cet idéal de beauté qui est une espèce d'androgynie de la part des mecs qui fait qu'il y a beaucoup de personnages dont Link, dont Sephiroth, dont je pourrais en citer d'autres, dont Persona, il me semble qu'il y en a aussi, qui ont qu'on peut interpréter avec notre lecture à nous comme queer.
Ouais, la tétra. Il y a beaucoup qui est Astolfo.
Pardon ?
Astolfo. Astolfo, c'est un chevalier dans une série plus ou moins tirée d'un truc de table ronde, mais dans des mangas. Et il est en armure rose, jupette, des cheveux roses, etc. Et,
un chevalier du Zodiac ?
Non.
Non, pas le même.
Attends, je suis en train de chercher dans quoi il joue. Rider est un servant de Class Rider. Hein. Dans le monde de l'Atlantide, durant la guerre du Graal de Gilgamesh. Fate, Grand Noir. Voilà. Bon, moi non plus, je suis pas allée me fader le reste, mais juste toutes les images qui sont tournées autour de ce chevalier magnifique. Très, très, très efféminé. Pourquoi on parlait de... Je ne sais plus. C'est plus à moi de parler. Je propose qu'on passe au sujet de lui.
Ah, je voulais juste rajouter un tout petit truc, parce que ça a parlé de Sephiroth. Moi, je confesse un truc. Hein. Comme je suis vieille, j'ai joué à Final Fantasy VII quand il est sorti à l'époque. J'ai passé un temps infini à chercher tous les items dans le passage où Cloud se travestit pour rentrer et rencontrer Don Corleone, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Curieusement, c'était voilà, je cherchais partout les meilleurs trucs pour que à la fin ce soit lui qui soit choisi et pas une des deux autres meufs. Voilà, je ne sais pas ce que ça révélait sur moi à l'époque.
Du coup, c'est à moi, c'est ça?
Oui, c'est à toi.
C'est à moi. Alors j'ai une transition parce que tu parlais de genre chercher la représentation là où on peut. Et je suis là pour aller chercher la représentation dans les chansons Disney. Vous connaissez la chanson, vous connaissez la musique. C'est le moment où je vous annonce qu'une des chansons que vous connaissez très bien est en fait une allégorie trans.
Comme tu fais ça bien.
Eh, presque, on dirait que j'ai préparé mon sujet. Et du coup, cette fois-ci, je voulais vous parler de Tarzan. Alors, à la base, je vais plus spécifiquement vous parler de Je veux savoir en français, mais A Stranger Like Me en anglais, et pourquoi cette chanson est trans. Mais en réécoutant toutes les chansons de Tarzan, on peut toutes les interpréter de manière au moins queer, au mieux trans. Genre vraiment, c'est improbable. Enfin, genre vraiment, tout le film, c'est... Enfin, toutes les chansons du film, c'est sur se construire en tant qu'homme et faire cohabiter sa famille choisie et sa famille biologique. Voilà. Tirez-en les conclusions que vous souhaitez. Du coup, je vais faire une petite présentation rapide sur la chanson avant de vous faire l'interprétation. Donc, c'est Stranger Like Me, je veux savoir, en français. Chantée par Phil Collins.
Évidemment.
Écrite par Phil Collins. Et composé par Phil Collins et Mark Mancina, qui a composé le reste des musiques du film avec lui. C'est du coup une co-composition sur tout le film. Le film en lui-même est sorti en juin 1999 et le single qui a suivi pour Stranger Like Me est sorti en octobre 1999. C'est le 37e film des studios Disney et il est basé sur une nouvelle d'Edgar Rice Burroughs. Tarzan, Seigneur de la Jungle. C'est produit par une femme, par Bonnie Arnold, qui a également produit La Famille Adams en 1991, qui a produit Toy Story premier du nom et qui a produit aussi tous les films Dragon. Voilà. Donc la meuf a fait des trucs très qualitatifs. On applaudit.
Tous les films Dragon, How to Train Your Dragon ?
Yeah.
Exactement, ouais. Tout à fait.
Pour info, parce que j'y pense là comme ça, Edward Rice Burroughs, c'est aussi l'auteur de toute une série de livres de science-fiction et c'est le premier à avoir parlé de martiens.
Eh bien, merci pour cette info que je n'avais pas, parce que je ne suis pas... Vu que j'ai préparé mon sujet il y a très longtemps, c'est-à-dire il y a 2 heures, je ne suis pas allé aussi loin dans mon doomscrolling des pages Wikipédia. C'était alors à l'époque où il est sorti, dans les fun facts, je vous fais un peu une liste des fun facts sur le film parce qu'il y en a quelques-uns un peu bien. C'était le film le plus cher que Disney ait produit à sa sortie, qui a été ensuite dépassé par La Planète au Trésor. Sauf que contrairement à La Planète au Trésor, ça n'a pas été un échec commercial. Le film a remporté, enfin a fait en bénéfice presque deux fois ce qu'il a coûté, voire un peu plus. Et ils ont vraiment mis les moyens parce qu'ils ont même envoyé l'équipe d'animation au Kenya et en Ouganda pour étudier les gorilles. Pareil, il y avait pas mal de prouesses technologiques à l'époque parce qu'ils ont mélangé de l'animation traditionnelle à la main et de l'animation numérique en 2D sur ordinateur. Voilà à peu près pour tout ce qu'il y a à savoir sur la partie technicité du film. Comme ça, vous pourrez vous la péter en soirée en infodumpant des trucs sur Tarzan. Faut savoir que c'est le premier film où les personnages principaux ne chantent pas les chansons. Parce qu'ils trouvaient ça bizarre que genre ce Tarzan chante avant même de savoir enfin, parler de manière humaine.
Alors que
Donc.
normalement, juste ouh, 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 ouh.
Qu'est-ce
La chanson a été intéressante.
Et du coup, ils ont demandé à Phil Collins de le faire. C'était la deuxième fois que Disney faisait appel à quelqu'un d'assez connu, mais d'un point de vue adulte, pour le faire, pour composer une musique d'un film. La dernière fois, c'était avec Elton John sur Le Roi Lion. La fois d'avant, et ils referont appel à Phil Collins pour Frères des Ours. Et c'est les deux seules collaborations qu'il y aura eu entre. On parlera de Frères des Ours dans un prochain épisode, promis, parce que j'en ai une aussi à vous faire là-dessus. Charlie est trop excite! Trop bien!
Bah, tu dis c'est la seule fois, mais c'est aussi, enfin, comment dire, c'est aussi la seule fois où ils ont refait appel à la même personne en fait. Enfin, d'habitude, ils
Ouais.
essayent de varier vachement.
Ouais, en fait, d'habitude, ils prennent soit des gens qui. Enfin, pour les singles, déjà, ils prennent souvent des personnes différentes entre les singles qui sortent en tant que titre de chanson du film et les personnes qui chantent vraiment dans le film, parce que d'habitude, c'est les mêmes personnes. Et aussi, il y a une différence entre. Enfin, ils essayent de prendre des gens qui sont assez connus, soit dans le monde du doublage, soit de la part de l'animation pour les gamins, en fait. Alors que là, pour le coup, Phil Collins et Elton John, ils étaient plutôt connus des publics adultes qui allaient voir les, enfin, qui allaient voir les films. Et alors, il a composé, genre, alors, ce qui me fume, c'est que il a composé toutes les chansons du film, notamment celle-là, qui est.
T'es en train d'essayer de nous faire écouter un truc là, c'est ça?
Ah, ça marche pas?
Non.
Bref. Quel échec. La chanson
Non.
où les gorilles sont en train de faire du jazz dans le camp en détruisant tout. Donc je trouve ça assez génial qu'il ait composé ça aussi. Les versions italienne, espagnole, allemande et bien sûr française de toutes les chansons. Donc ça veut dire que le mec a fait la moitié des langues doublées pour le film, sachant qu'il n'a juste pas fait les langues cyrilliques et le flamand. Improbable. Et il aura gagné un Academy Award of Best Original Song pour You'll Be In My Heart, dont on pourra peut-être parler une autre fois aussi, qui est aussi giga queer. Maintenant, pour parler de l'interprétation en elle-même de la chanson, alors je suis un peu deg que mon bug ne marche plus parce que je peux plus vous faire écouter en même temps que je vais faire l'analyse en fait, c'est nul.
J'ai une solution. J'ai une solution.
C'est quoi ?
Louis, tu peux chanter. Ha ! On t'écoute.
Non. Mais je vais vous faire les interprétations quand même, genre.
Oui, on mettra les extraits après.
On mettra les extraits. Je mettrai les timecodes. Du coup, j'ai retraduit certains trucs parce que la version anglaise est un tout petit peu plus subtile et un tout petit peu plus interprétable de manière trans que la version française. Mmh. Et du coup, je vais... On mettra les extraits, mais... Whatever you do, I'll do it too. Show me everything and tell me how. It all means something and yet nothing to me. Whatever you do, I'll do it too. Show me everything and tell me how. It all means something and yet nothing to me. Tout ce que tu fais, je le ferai. Montre-moi et tout et dis-moi comment. Tout cela a un sens et pourtant ça n'en a pas pour moi. Et moi, j'ai interprété ça comme quand on demande à des personnes qui ont transitionné depuis plus longtemps que nous de nous montrer un peu les codes du genre d'arrivée et de demander à nos adelfes en fait, d'avoir un peu des rôles modèles pour comment il faut qu'on fasse parce qu'on ne connaît pas encore bien les codes. I can see there's so much to learn and it's so close and yet so far. I see myself as people see me. Or I just know there's something bigger out there. I can see there's so much to learn. It's all so close and yet so far. I see myself as people see me. Or I just know there's something bigger out there. Je vois qu'il y a tant à apprendre sur les codes de genre. Ça semble si près et pourtant si loin, donc... Ça semble si près parce que ça nous correspond, mais ça semble si loin parce qu'on doit réapprendre à se comporter pour avoir du passing. Je me vois comme les autres me voient et je l'interprète comme voir le passing dans les yeux des autres. Et il y a quelque chose de plus et je sais qu'il y a quelque chose de plus grand là-bas en dehors, donc qu'on peut s'épanouir en étant autre part, autrement. Fait directement la traduction, que ce sera plus là. Je veux savoir, peux-tu me montrer? Je veux connaître ces étrangers similaires à moi. Dis-moi plus, s'il te plaît, montre-moi. Il y a quelque chose de familier c'est chez ces étrangers faits comme moi. Genre, tu rencontres la commu trans et tu vois que, genre, en fait, ils sont à peu près comme toi et que du coup, ah, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai tant. Je me sens pareil que ces gens-là et que du coup, on a plein de vécu en commun, c'est fou. Parce qu'on est trans. Après ça passe sur le tous ces mouvements, tous ces gestes qu'elle fait me font sentir comme jamais auparavant. Pourquoi je sens ce besoin d'être toujours près d'elle? Franchement, moi, je pars du principe que Tarzan, c'est une meuf trans et que du coup, en fait, Jane, c'est pas pour la pécho, c'est juste que, genre, Tarzan veut être comme elle, en fait. Et du coup, apprend de ses gestes, de la manière dont elle se comporte. Mm-hmm. Donc, on peut l'interpréter comme ça, ici. Des émotions nouvelles d'un monde nouveau très loin d'ici. Les hormones, ça fait des émotions nouvelles, on va pas se mentir. Au-delà des arbres et des nuages, je vois devant moi un autre horizon. Quand on est trans et qu'on a grandi en milieu rural, au-delà des arbres et des nuages, on est content de genre, se barrer et d'aller à la ville parce que, punaise, genre, essayer de croiser une autre personne trans en milieu rural, c'est impossible. On repasse sur le refrain et après c'est viens voir ce monde qui est le mien, il est plus beau que dans tes rêves, ressens-tu ce que je ressens là avec toi, donc pouvoir montrer qui on est vraiment au reste du monde, donc là inviter des personnes qui nous connaissent, enfin qui nous connaissaient d'avant, à découvrir qui on est vraiment. Prends ma main, il y a un monde que je dois connaître, et du coup c'est demander à nos adelfes trans de nous tenir la main pendant qu'on se comme qu'on est nous-mêmes face au monde en tant que personne trans. Voilà. Et après, ça repart sur le refrain.
C'est avec le mythe de Tarzan. Si on le prend comme un comme une métaphore trans, c'est vivre au milieu de d'animaux d'une autre espèce que soi, avec qui on n'arrive pas à communiquer, en fait.
Un peu. Il y a ça, et je pense, rien à voir, mais je pensais, pendant, quand j'étais petit, que la gorille, sa pote d'enfance, c'était je pensais que c'était un mec. Dans ma tête, c'est un mec trans, en fait, aussi, genre sa pote d'enfance, la gorille, parce que je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'était... Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, mais j'ai cru pendant très longtemps que c'était un mec.
Tu te projetais, non ?
Un peu. Ah, et dans les fun facts qui n'ont rien à voir avec la transidentité, mais qui sont cool à savoir, c'est que ça a été confirmé, les théories comme quoi les parents de Tarzan et les parents de Elsa dans La Reine des Neiges sont les mêmes.
Wait, what ?
Non, mais... Ouais, alors il y avait toute une théorie montée sur le fait que, en fait, dans La Reine des Neiges, les parents de Elsa et Anna partent en bateau faire je sais plus quoi. Mm-hmm. Et en gros, ce qui se passe, c'est que dans Tarzan, on voit un bateau qui s'écrase avec des parents qui s'échouent sur l'île.
Ouais.
Et il y a des gens qui ont fait le lien entre le visage des parents dans La Reine des Neiges et les parents de Tarzan, les parents humains de Tarzan, et ça a été confirmé par chez les gens de Disney que c'est les mêmes personnes et que du coup Tarzan c'est le gamin qu'ils ont eu sur le bateau pendant le voyage, ou que genre elle a accouché pendant le voyage, et que du coup Tarzan c'est le frère de Elsa et Anna. Voilà. Okay. C'est tout.
Tu nous as spoilé le pitch de La Reine des Neiges 3, en fait. L'énorme guest qui sera Tarzan.
Et alors, attends, tu dis que ça a été confirmé par Disney ?
Ça a été confirmé.
Oh, c'est énorme. Ouais. Enfin, je regarde les images, là.
Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai jamais vu Tarzan, que je me sens hyper coupable parce que ça a l'air d'être vraiment bien, et que maintenant, j'ai l'impression que maintenant que j'ai passé une bonne partie de ma vie à dire ouais, je vois carrément de quoi vous parlez quand les gens parlaient de Tarzan parce que tout le monde avait l'air de dire que c'était exceptionnel, bah maintenant, il n'y a plus personne qui veut le regarder avec moi parce que tout le monde part du principe que je l'ai déjà vu.
Non, mais Charlie, on va regarder Tarzan ensemble, en fait.
je peux confesser un truc ?
Tu l'as pas vu non plus ?
Je n'ai pas vu Tarzan.
Okay. Mon petit frère, ma petite sœur... Je vais rejoindre votre club, je n'ai pas vu Tarzan non plus.
Mais quoi ? Mais je suis tout seul ! Oh là là, mais
on fait une projection, là ? Qu'est-ce qui se passe ?
Oh oui. Mais oui, je pense que prochain objectif, on fait une projection de Tarzan.
Parce que vous êtes trop vieux et vieille, ça.
Pendant tout le segment de Louis, on a hoché la tête en mode « on sait exactement de quoi tu parles ». La chanson de Phil Collins, on voit exactement ce que c'est, t'inquiète, je sais même à quel moment du film elle est. Vraiment, elle était hyper convaincante et convaincante. Ça pour au final être trois espèces d'escrocs, genre.
Non, je me sens tellement trahi.
On peut faire de la politique, c'est bon.
Non, tu sais, c'est le fameux bouquin, genre comment parler des livres que vous n'avez pas lus. Et le bouquin que personne
oui,
n'a lu.
Oui, je l'ai pas lu, mais il a l'air vachement inspirant.
Exactement.
Il y a un truc dans ce que tu as dit, Louis, ça fait écho à une conversation qu'on a eue il y a peu de temps. Jenna, c'est sur le terme de... tu as parlé de famille biologique, en fait. Mm-hmm. Et on avait débattu autour du terme de famille de sang, en fait, qui n'est pas forcément propre. Et donc, j'ai eu une conversation juste après avec une autre personne qui utilise un super terme, et je le trouve vraiment chouette. Mm-hmm. Donc, c'est famille héritée.
Oh, pas mal, ouais.
Ouais, et du coup, c'est vraiment, quand elle l'a dit, je lui ai dit, mais je te remercie, parce que, en fait, tu viens de me donner une expression qui me manquait pour pouvoir parler clairement de cette famille qui, voilà, qui sont tes parents, tes oncles, tes tantes, tes, voilà, et que ça soit des personnes avec qui tu partages de l'ADN ou pas, en fait. Voilà. Oui, c'est un peu hors sujet, mais du coup, c'est
non,
un
non,
truc...
Non, mais ça va. Genre, j'ai juste que je cherchais une transition pour te rendre la main après, mais j'en ai pas.
Eh ben, ça va être au tour de Mika de nous parler de jeux de rôle.
Oui, bien sûr. Je vais vous emmener à l'aventure avec moi. Je vais vous faire explorer des donjons plus profonds et plus sombres que ma dépression.
T'as failli dire ta transition.
Oui, je suis fatiguée. Je vais parler d'un sujet qui a terrifié des tonnes de parents parce qu'ils imaginaient qu'à cause de ce loisir, leurs enfants allaient finir fous ou suicidés. Merci Mireille Dumas pour son émission toute pourrie. Je vais donc parler de jeux de rôle, oui. Oui, Jenna, j'ai vu ton regard. Il y a eu en 1994 une émission... présenté par, donc il s'appelait Bal et Masque, par une présentatrice qui s'appelait Mireille Dumas, qui faisait toujours une espèce de talk show de société, qui a parlé du jeu de rôle, et donc en gros qui a importé une panique morale qui existait déjà aux États-Unis, en mode oh, tous ces jeunes qui font du jeu de rôle, ils se prennent au jeu, ils sont dans leur personnage, et après ils vont assassiner des gens, ou commettre des horreurs, ou se suicider. Attention! Et mine de rien, je le dis en rigolant, mais en fait, ça a eu un vrai impact sur les ventes de matériel de jeux de rôle. Du coup, le jeu de rôle, j'en parle comme si tout le monde connaissait. Le jeu de rôle, c'est un loisir qui, en gros, a débuté sur la fin des années 70. On connaît pour beaucoup le jeu Donjons et Dragons qui a été extrêmement ensuite adapté de différentes manières. Il y a eu plusieurs éditions, mais il y a eu aussi des jeux vidéo, il y a eu des films, dont un qui est sorti en France là, il n'y a pas longtemps. L'idée du jeu de rôle, c'est que en fait on fait comme quand on est petite et qu'on joue à faire semblant. Hein, voilà, on va jouer qu'on est des aventuriers et que la cour de récréation, en fait, c'est un vaste monde. Sauf que, comme c'est des gens un peu plus, enfin, supposément adultes qui jouent à ça, l'idée c'était de rendre les choses un tout petit peu plus sérieuses, donc d'y mettre quelques règles. voilà. Alors, je le dis en rigolant, évidemment, mais. L'idée du jeu de rôle, c'est précisément que c'est une histoire qu'on va se raconter à plusieurs personnes et qu'on va vivre à plusieurs personnes. Une histoire qui, en général, repose sur une trame, donc un scénario qui a été écrit, un scénario qui se passe dans un univers défini. Et c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, parmi les personnes qui jouent, il y en a une dont le rôle, ça va être justement d'apporter ces éléments d'univers, d'incarner des personnages non joueurs, donc hein, les personnages qu'on va rencontrer au fil des déambulations. Cette personne s'appelle le meneur, meneuse de jeu ou maître, maîtresse de jeu, ça dépend des termes qu'on utilise. Il y a Dungeon Master ou Dungeon Mistress en anglais. Alors, ce n'est pas ce que vous croyez.
Il y a un TikTok qui était en mode vous voulez faire la différence entre des fétichistes BDSM et des joueurs de jeux de rôle, demandez-leur ce que c'est qu'un Dungeon Master.
Ouais, c'est une bonne manière. Et donc, cette personne a quand même pas mal de taf en général, parce que ça suppose de bien connaître l'univers, de au moins de préparer un scénario, sinon de l'écrire. Et quand je dis scénario, ça peut être aussi des choses qui sont pas du tout fermées, des trames avec quelques éléments, et puis ensuite derrière, beaucoup d'impro. Et donc, en général, quand on fait du jeu de rôle, on se réunit à quelques personnes, et on va vraiment, je le disais, je le répète, hein, vivre une aventure en commun. J'ai une amie qui a eu cette expression fabuleuse que moi j'aime beaucoup pour décrire mon loisir, qui est de dire, en fait, avec le jeu de rôle, eh ben, on a vécu des aventures et on s'est créé des souvenirs communs de choses qui ne sont jamais arrivées. Ce qui est très très vrai, puisqu'on est capable des fois de se raconter des parties de jeu de rôle qu'on a vécues il y a 5 ou 10 ans, avec un souvenir très précis d'une situation ou d'un personnage qui nous a marqué. Alors que, en fait, on avait toutes et tous les fesses autour d'une table à manger des curly et à boire des bières et à lancer des dés. Puisque ça, c'est un truc assez important dans le jeu de rôle. Il y a souvent, pas toujours, mais quand même très souvent, un facteur aléatoire, donc sous la forme de dés qu'on va lancer, qu'on va ajouter à des valeurs qui définissent notre personnage. Et ça permet de déterminer globalement si les actions qu'on souhaite entreprendre, elles réussissent ou elles ratent. Ce que je disais... quand je parlais du fait qu'il y avait des règles, c'est pour éviter les bagarres qu'on avait à la récréation quand quelqu'un disait « t'es mort » et toi disais « mais non, c'est pas vrai, je suis pas morte ». Voilà. Et donc là, au moins, il y a un cadre, il y a des règles qui sont posées, voire même des règles hyper compliquées qui t'expliquent pourquoi tu as raté ton tir à l'arc la nuit avec du vent et... voilà, trois bougies qui éclairaient au loin un petit peu la cible que tu visais. C'est une critique à peine voilée à certains jeux qui sont des usines à gaz auxquels j'ai joué et pour lesquels j'ai absolument plus aucune appétence aujourd'hui parce que justement je préfère le côté on se raconte des histoires, le côté imagination, le côté très narratif. Je disais qu'il n'y avait pas toujours des dés à lancer quand on joue au jeu de rôle et qu'il n'y avait pas non plus toujours de meneur, meneuse de jeu, il y a des trucs où vraiment tout le monde collabore et construit l'histoire ensemble, voire construit l'univers ensemble. Et ça, c'est vraiment super chouette parce que ça débouche des fois sur des parties mémorables où on est parti vraiment très très loin dans des délires et où on est encore capable de se le raconter, pareil, des années après... alors que de base on est arrivé, on savait pas trop ce qu'on allait faire et quelqu'un a lancé une idée et pendant 4 heures on a rebondi dessus. Voilà, je suis très enthousiaste quand j'en parle parce que c'est vraiment un loisir que j'aime beaucoup depuis longtemps parce que j'ai commencé à le pratiquer quand j'étais au collège. Donc ça fait largement plus de 20 ans que je fais du jeu de rôle. Et... pour le raccrocher un petit peu à cette autre passion qui nous unit tous, qui est la transidentité. la transidentité, une grande passion.
Transidentité.
Voilà, c'est exactement ça. Je rappelle que passion vient du latin patior qui signifie souffrir. Hein.
Ouais. C'est notre voilà.
La passion du Christ.
Et donc pour le rattacher un peu à ça, comme on incarne des personnages et que ces personnages en général on les crée, hein, en tant que joueur, joueuse, souvent on a la charge de créer notre propre personnage. On peut nous en fournir des fois des prédéfinis, mais souvent c'est quand même plus sympa de le customiser. Et donc justement dans la création du personnage, moi c'est vraiment quelque chose, pas toujours mais quand même assez régulièrement, c'est quelque chose qui m'a permis d'explorer aussi cette identité féminine que je pouvais pas trop exprimer à l'époque. Et donc, selon les jeux, selon les tables aussi, c'est-à-dire les groupes de personnes avec qui je jouais, selon les univers, des fois je me disais « Ah non, là j'ai vraiment trop envie de faire tel type de personnage qui soit une femme. » Et voilà comment je l'imagine. Et ça permettait aussi d'explorer des fois des certaines formes de féminité qui ne sont pas la mienne en vrai. Voilà, c'était assez intéressant. Ce n'était pas toujours le cas. J'ai un vieux classeur avec plein de feuilles de jeux de rôle. Et il y a aussi des personnages masculins qui étaient plutôt rigolos à incarner. voilà, il y a vraiment ce côté d'exploration qui était permise. Et depuis ma transition, je fais toujours du jeu de rôle, je me suis aperçu que, eh ben, en fait, il y a toujours cette dimension d'exploration, pas tant par rapport à la question du genre, mais plus par rapport à mon état d'esprit. Il y a quelques mois, alors que j'étais encore toute vive, pétillante et pleine d'énergie, eh ben, j'ai créé un personnage pour une campagne qu'on est en train de jouer, qui est une barde, voilà, avec une backstory assez détaillée, mais globalement un personnage qui a vécu tellement de trucs pas cool, qui a décidé de prendre le contre-pied, qui est très, très lumineuse, très pétillante. Et c'était, en fait, après coup, je me suis dit, j'avais jamais joué barde avant dans aucun jeu de rôle. Je me suis dit, mais Mika, t'es pas en train de complètement mettre ce avec quoi tu es dans ce personnage, et c'était complètement ça. Voilà. Là, si je créais des personnages, ils seraient probablement moins lumineux. Mais ça me fait plaisir, parce que je l'ai joué il n'y a pas encore très longtemps, de retrouver ce barde-là, cette barde est de. En plus, c'est dans un univers très sombre pour le coup, et je trouve qu'elle arrive complètement en contrepoint du truc. Et c'est plutôt un gros gros plaisir à incarner.
C'est quel jeu de rôle que tu fais du coup pour avec ce personnage-là?
Alors là, c'est du Donjons et Dragons dans sa
Ok.
dernière édition et dans un univers assez sombre qui est l'univers de Ravenloft. Donc,
Ok.
avec voilà, un côté, il y a des vampires, il y a de la pauvreté, il y a voilà, les gens, certains n'ont pas d'âme. Voilà
Est-ce
pour ce que j'avais à
que
dire.
quand ton moral a descendu, tu peux encore jouer ce rôle de barde avec la même énergie? Ou est-ce que ton état a un impact sur l'état du personnage?
Je pense que c'est. En fait, c'est un peu comme le théâtre finalement, puisque je fais aussi du théâtre. Je suis capable de mettre beaucoup d'énergie dans un moment si ça va bien. Hein. D'ailleurs, la preuve dans cet enregistrement de podcast, je suis contente de vous voir. Du coup, je suis capable d'être assez enjouée, alors que, il y a 2 heures, j'étais presque en larmes. Voilà. Donc. Ouais, en fait, je trouve qu'il y a un aspect. C'est un personnage, c'est pas moi. Du coup, je suis capable de. Et des fois, je trouve que c'est thérapeutique, justement, d'être capable de dire, mais dans cette situation, en fait, ce personnage, qui s'appelle Kaeline, bah, réagirait comme ça. Et moi, j'ai pas du tout envie de réagir comme ça, mais en fait, elle le ferait de cette manière-là. C'est même une réflexion souvent qu'on a. On parle du roleplay en jeu de rôle, c'est-à-dire la manière dont tu incarnes ton personnage. Et souvent, il y a un contrat social, quand c'est quelque chose d'important, le roleplay pour une table, de dire on va valoriser les joueurs et joueuses qui respectent les limites de leur personnage. Tu crées un personnage et tu dis que c'est un personnage qui est respectueux de la vie. Eh ben, ça va être extrêmement difficile moralement pour ce personnage d'aller tuer quelqu'un, par exemple. Et du coup, si tu te confrontes volontairement à ces situations-là, ça peut être valorisé par le MJ, par exemple. Quand bien même toi, en tant que joueuse, tu l'aurais pas fait du tout.
Est-ce que ça aide à développer de l'empathie pour les en dehors des périodes de jeu?
Je sais pas.
Je pense que ça aide plus en termes de genre jouer un rôle. Moi, je sais que je le fais pour. Enfin, typiquement, le dernier personnage que j'ai fait, c'est un barde aussi. Mais c'est genre le barde hyper sassy, tu vois. Genre, en fait, les bardes, il y a deux types de bardes. Il y a les bardes enjoués qui sont tout le temps contents et qui vont mettre des trucs positifs tout le temps et qui sont là pour être en mode yeah. Et tu as les bardes qui sont basiquement des drag queens qui vont genre te descendre les gens et qui vont affiger des points de malus tellement t'es en train de genre assassiner quelqu'un verbalement. Et moi, je joue la deuxième catégorie de barde parce que je suis pas quelqu'un qui est beaucoup de répartie dans la vie de tous les jours. Et du coup, ça m'aide pour mon personnage de drague, en fait, genre d'arriver à envoyer des pics à tout le monde.
Alors que tu vois, ben, le personnage que joue Kaline, c'est typiquement la première catégorie que tu as citée. Et quand je dis qu'elle est fortement inspirée de ce que j'avais pu vivre quelques mois avant, c'est une barde qui a une spécialité, qui est spécialisée dans le maniement des lames et des épées pendant qu'elle performe et pendant qu'elle fait de la musique. Et c'était complètement en écho à ce duel d'épées magiques que j'ai vécu pour de vrai cet été avec une adelfe. Voilà.
Moi, je fais du jeu de rôle depuis que je suis assez petit, mais c'est mon père qui nous a fait jouer et il nous a jamais fait jouer de manière conventionnelle. Genre, c'était plutôt ah, regardez, j'ai plein de petits bonhommes et de figurines et de vieux dés qui me restent dans une boîte parce que quand j'étais jeune, je jouais un maximum avec mes potes. Et du coup, j'ai une boîte à chaussures avec plein de vieux matos. Et oh, il se trouve que j'ai un livre de 200 pages de règles de comment est-ce que ça se passe en Terre du Milieu. Il se trouve qu'avec trois feuilles à quatre et un crayon de papier, on peut dessiner une map. Et du coup, il nous a fait MJ sur nos premiers jeux de rôle avec mon frère comme ça, genre en impro et en sbeul total. Avec moi qui sais pas prendre une décision et mon frère qui était juste en mode « Bah là, c'est facile, on tue ».
On dirait moi quand je vois Dalbuck.
Donc c'était très compliqué. Et après les genre en JDR j'ai toujours joué des garçons et a priori plutôt des grosses brutes. Genre j'ai toujours adoré jouer des nains, des nains qui ont un caractère très défonce et tout ça. Et pareil parce que bah, j'ai l'impression que c'est un caractère, enfin une caractéristique commune. On joue ce qui est antinomique de nous, mais en même temps parce qu'on cherche à renforcer des trucs et du coup ça aide. Et fun fact, je jouais beaucoup donc à ce que j'apparente à des jeux de rôle, mais plutôt en jeux vidéo, du coup genre Dragon Quest et tout ça. Et dans Dragon Quest, je prenais tout le temps un starter homme. Et sur mes premiers jeux Dragon Quest auxquels j'ai joué quand j'avais genre 12 ou 13 ans, mes personnages s'appellent Charlie. Et j'avais aucune idée de ce que c'était qu'être trans à ce moment-là, quand même, il faut le savoir. Donc je pense que la façon dont on joue au JDR dit effectivement beaucoup de nos personnalités. Et la bonne raison pour laquelle moi ça dit beaucoup, c'est que je ne joue quasiment plus aujourd'hui en joueur au JDR, je ne joue qu'en maître du jeu. J'ai beaucoup beaucoup de mal à m'astreindre à faire une partie en tant que joueur. Je préfère vraiment genre être en contrôle de ma situation, inventer des trucs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, inventer des trucs, des situations improbables et tout ça. Et créer des maps, j'aime trop ça, et tout ce qui peut me permettre d'avoir une vision globale de la situation, tout en adorant laisser mes joueurs dans l'obscurité complète sur ce qui va leur arriver.
Ah, c'est
Alors que
surtout
du coup.
ça,
Alors
d'accord.
que du coup, je
Parce que
déteste
sinon, c'était
être
pas
en position.
incompatible avec ce que disait Mika sur le fait d'être co-auteur de l'histoire en groupe.
Ça
Mais
aide.
t'aimes surtout, en fait, avoir les infos quand les autres l'ont pas.
Ouais, je
Ils
trouve ça
ont
hyper
pas.
drôle.
Ok. Je vois.
Mais
Je suis
c'est
toujours
fou
fou.
parce que moi, c'est l'inverse. Genre, j'ai plus masterisé avant transition qu'après transition. Et surtout que, genre, j'ai quasi toujours joué des personnages féminins. Genre, vraiment. Voilà. Je sais pas ce que ça dit sur moi, mais j'ai beaucoup joué des personnages. Enfin, la dernière, sauf là dernièrement où je joue un perso où j'ai spécifiquement dit que je jouais un mec trans. Parce que nick. Mais c'est vrai que en fait, je pense que c'est l'idée que comme j'étais une des seules personnes perçues femme dans tout mon. Enfin, j'étais la seule personne perçue femme dans tout le groupe de jeux de rôle. Et que du coup personne jouait des nanas et que moi ça me faisait chier. Généralement je jouais des meufs et je jouais des meufs badass. Et Nalbuck, généralement je jouais soit des barbares femmes, soit des Amazones sidariennes. Et on m'a souvent pété des câbles dessus parce que si jamais le MJ avait le malheur de faire une campagne qui était beaucoup plus cérébrale que physique, je finissais juste par découper les gobelins qui étaient censés nous donner les informations.
C'est
Voilà.
marrant, la raison que tu donnes pour avoir joué des personnages féminins qui est, ils ont équilibré le plateau,
Ah non, mais c'est moi
était.
qui choisissais.
Oui, bien sûr, mais c'est la raison que moi j'utilisais pour équilibrer le plateau et jouer des personnages féminins aussi. Moi, j'ai très très peu d'expérience de jeux de rôle. J'avais J'ai joué à des jeux de plateau qui sont, on va dire, des introductions à Donjons et Dragons, ce genre de choses, quand j'étais petite. Mais après ça, je l'ai toujours tenu à distance, un petit peu pour les raisons que t'évoquais, Mika, la peur de Mireille Dumas. Et la peur de me projeter dans quelque chose qui n'était pas à moi. Mais ce que je rapproche beaucoup, c'est d'avoir passé des heures et des années dans World of Warcraft, qui est quand même vachement proche de Donjons et Dragons. C'est pas exactement original. Mais en jouant exclusivement des personnages féminins. Et longtemps avant mon coming out. C'est marrant, je repense à Mireille Dumas, et pour moi, j'arrive pas à avoir la tête de Mireille Dumas dans la tête. J'ai la tête d'Agnès Buzyn. Pour moi, c'est la même personne. J'ai un headcanon très précis.
Il y a un truc que j'ai pas dit, justement, dans le jeu, parce que parfois on peut être confronté à des peurs, enfin à des choses qui nous mettent mal à l'aise. Il y a une pratique plutôt sympa là, depuis quelques années, qui est le principe de la carte X, que je trouve assez intéressant, qui est l'idée de... En gros, il y a une carte au centre de la table ou un objet, et à partir du moment où il y a un sujet trigger qui est abordé, la personne peut s'en saisir sans apporter de justification, en disant là non, ce sujet je préférerais qu'on évite. Et donc si le MJ le propose, c'est que en principe c'est une personne qui est ouverte à l'idée de pouvoir changer un peu ses plans. Et donc pour éviter, voilà, ça peut être sur tout un tas de choses, mais typiquement t'as pas envie d'entendre parler de violence sexuelle, carte VIX, voilà. Et donc faites du jeu de rôle, c'est trop bien.
Moi, je pense que tout ce qu'il y a à retenir,
besoin qu'on
c'est
prenne
que...
la main pour y jouer, moi.
Je pense que tout ce qu'il y a à retenir, c'est que Mika, t'étais joueuse quand il y avait la panique morale autour du jeu de rôle, et pour moi, c'était genre une légende urbaine qui n'existait que dans Stranger Things.
Ouais.
Voilà.
J'admire.
Et maintenant, je suis trans pendant qu'il y a la panique morale sur les trans.
Est-ce que Mika génère des paniques morales à elle toute seule ?
Je suis d'accord sur les paniques morales.
En tout cas, écoutez, je trouve qu'on a encore passé un super épisode à parler de nos intérêts spécifiques divers et variés. C'était top.
Complètement.
C'est vraiment à ça que se sont résumés les deux derniers épisodes d'un podcast trans. Mais même avant, ça faisait déjà un peu. Mais là, vraiment, les deux derniers, c'est grave.
Mais c'est ça, parce que c'est... je crois qu'on l'a organisé comme ça avec la nouvelle organisation. C'est un petit peu plus carré et du coup un petit peu plus infodump. Et ouais, je crois que c'est... j'aime bien, ça me plaît beaucoup.
Ouais.
On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez oubliées, des choses avec lesquelles vous voulez conclure, où est-ce qu'on vous trouve en ligne, de la promo à faire?
Nulle part. C'est sur les réseaux. Vous êtes mignons tous les gens, parce que quand il y a l'épisode qui a été posté, j'ai eu des follows sur Bastodon et j'étais en mode je suis désolé les gens, je suis un fantôme, je ne suis plus.
Ah, j'ai trouvé ça assez jouissif de mettre à jour le site, de mettre le nouvel épisode et du coup de virer tous les liens vers Twitter et de faire des liens vers Bastodon à la place. Voilà.
Mais du coup, merci beaucoup à tous pour votre accueil sur le dernier épisode et sur notre retour.
Oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas du tout parlé dans l'intro, mais il est encore temps, on a eu des très jolis commentaires. Et surtout, le truc est revenu, c'est je suis très très heureuse que vous soyez revenus, parce que je croyais que c'était fini. Et ça veut dire qu'on a bien fait de continuer, et c'est cool.
Ouais, ça c'est un... C'est ça, quand on en a parlé là il y a quelques temps, ça m'avait filé une belle énergie de dire, en fait, on n'a pas... Je ne sais pas ce que le podcast a pu apporter aux gens, mais ne serait-ce que de savoir qu'elles sont contentes qu'on soit revenus, ça fait plutôt du bien, en fait.
Bah, on a commencé cette discussion en parlant de faire éclore des œufs, et c'est un podcast qui aide à ça, de ce que j'entends. Et ça m'émeut à chaque fois, quand j'ai des histoires comme ça qui nous reviennent. Et voilà, on va continuer à vous couver
Oui. Et avec recevoir plaisir. Nos financements du lobby.
C'est pour ça qu'on est les pauvres.
Les mères poules.
Complètement.
Qu'est-ce que tu dis, Charles?
Je dis, c'est nous les Yoshi trans.
C'est ça.
Ah, non, on ne pompe pas les œufs. On se contente de les couver.
C'est vrai.
Bon, voilà.
Là, techniquement, j'ai encore ce qu'il faut pour faire des œufs.
Il faut en faire cadeau. Si tu sais pas quoi en faire.
C'est une discussion qu'on aura pour une autre fois.
Tout à fait. Et mon fils, il tient debout. Il devrait pas à 7 mois et demi, mais il est tellement pressé et il tient debout.
C'est terrible que tu aies enchaîné sur ton fils parce que je voulais évoquer un truc en rapport avec les œufs, mais du coup, j'ose plus maintenant.
Je pense qu'on peut conclure en disant que tous les parents sont les mêmes. Genre, on pense que leur enfant est incroyable et exceptionnel, même les parents trans.
Tout à fait.
Oui.
Non, mais objectivement, c'est le plus beau. On est d'accord.
N'hésitez pas à...
I beg to differ.
N'hésitez pas à mettre dans les commentaires que vous trouvez que l'enfant de Jenna est le plus beau, même si vous ne l'avez pas vu. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, n'hésitez pas à interagir avec l'épisode, à le partager sur vos réseaux, et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres sujets.
Peut-être elle existera en Inter, lol, c'est dans pile un mois.
Ah mais c'est une très bonne idée.
C'est vrai, c'est le 13 mai. Même. Ouais.
Moi, j'y suis.
Donc un peu moins d'un mois quand vous écoutez cet épisode.
Bien sûr.
Promis, là, il sort avant l'existence inter.
Ouais, c'est dans pile poil un mois et moi je serai à Paris brièvement pour ce week-end-là à l'existence inter. Donc j'espère vous croiser, vous. Et si vous me reconnaissez du podcast, vous pouvez timidement venir me voir, mais s'il vous plaît, vraiment timidement. Sinon je vais avoir peur.
Donc, Charlie en tournée tout le mois de mai. Mais oui, carrément, on fait un meet-up.
Oui, grave.
Ouais. On fait un cortège, on fait une pour Existrance Inter, on fait une bannière.
Je ne serai pas là normalement, c'est une semaine où j'ai mes enfants, qui sont les plus beaux.
De leur âge, oui, certainement.
La guerre des darons a démarré, tu vois.
Non, moi, je concède complètement. À leur âge, c'est les plus beaux.
Mais non, il y a de fortes chances que je ne sois pas là, même si j'aimerais beaucoup.
D'accord. Louis, tu disais quelque chose?
Je disais qu'on va peut-être arrêter l'enregistrement.
Oui, pardon. Tu as fait la conclusion tellement bien. Arrêtons-nous là. Laissez des commentaires sur Spotify.
Techniquement, il nous reste 7 minutes.
Ah. Allez, rentrez chez vous maintenant.
Bye.
Et donc, vie et prospérité à vous.
Une promesse est une promesse. Que la force soit avec vous tous et toutes.